Les jours s'écoulaient, le saint demeurait sur son pilier. Quand vint la saison des pluies, l'eau du ciel passant à travers les fentes de la toiture inonda son corps. Ses membres engourdis devinrent incapables de mouvement. Brûlé par le soleil, rougi par la rosée, sa peau se fendait, de larges ulcères dévoraient ses bras et ses jambes. Mais le désir de Thaïs le consumait intérieurement, et il criait « Ce n'est pas assez, Dieu puissant, encore des tentations, encore des pensées immondes, encore de monstrueux désirs. Seigneur, fais passer en moi toute la luxure des hommes afin que je l'expie toute. » S'il est faux que la chienne de Sparte ait pris sur elle les péchés du monde, comme je l'ai entendu dire à certains forgerons d'imposture, cette fable contient pourtant un sens caché dont je reconnais aujourd'hui l'exactitude. Car il est vrai que les immondices des peuples entrent dans l'âme des saints pour s'y perdre comme dans un puits. Aussi les âmes des justes sont-elles souillées de plus de fange que n'en contient jamais l'âme d'un pécheur. Et c'est pourquoi je te glorifie, mon Dieu, d'avoir fait de moi l'égout de l'univers. Mais voici qu'une grande rumeur s'éleva un jour dans la ville sainte et monta jusqu'aux oreilles de la Sète. Un très grand personnage, un homme des plus illustres, le préfet de la flotte d'Alexandrie, Lucius Aurelius Cotta, va venir. Il vient, il approche. La nouvelle était vraie. Le vieux Cotta, parti pour inspecter les canaux de la navigation du Nil, avait témoigné à plusieurs reprises le désir de voir le Stylite et la nouvelle ville à laquelle on donnait le nom de Stylopolis. Un matin, les Stylopolitains virent le fleuve tout couvert de voiles. Au bord d'une galère dorée et tendue de pourpre, Cotta parut suivi de sa flottille. Il mit pied à terre et s'avança, accompagné d'un secrétaire qui portait ses tablettes et d'Aristée, son médecin, avec qui il aimait à converser. Une suite nombreuse marchait derrière lui et la berge se remplissait de laticlaves et de costumes militaires. À quelques pas de la colonne, il s'arrêta et se mit à examiner le stylite en s'épongeant le front avec un pan de sa toge. D'un esprit naturellement curieux, il avait beaucoup observé dans ses longs voyages. Il aimait à se souvenir et méditait d'écrire, après l'histoire punique, un livre des choses singulières qu'il avait vues. Il semblait s'intéresser beaucoup au spectacle qui s'offrait à lui. « Voilà qui est étrange, » disait-il, tout suant et soufflant. « Et, circonstance digne d'être rapportée, cet homme est mon hôte. Oui, ce moine vint souper chez moi l'an passé. Après quoi, il enleva une comédienne. » Et, se tournant vers son secrétaire, « Note cela, enfant, sur mes tablettes, ainsi que les dimensions de la colonne, sans oublier la forme du chapiteau. » Puis, s'épongeant de nouveau le front, des personnes dignes de foi m'ont assuré que depuis un an qu'il est monté sur cette colonne, notre moine ne l'a pas quitté un moment. Aristée, cela est-il possible? Cela est possible à un fou et à un malade, répondit Aristée, et ce serait impossible à un homme sain de corps et d'esprit. Ne sais-tu pas, Lucius, que parfois les maladies de l'âme et du corps communiquent à ceux qui en sont affligés des pouvoirs que ne possèdent pas les hommes bien portants? Et, à vrai dire, il n'y a réellement ni bonne ni mauvaise santé, il y a seulement des états différents des organes. À force d'étudier ce qu'on nomme les maladies, j'en suis arrivé à les considérer comme les formes nécessaires de la vie. Je prends plus de plaisir à les étudier qu'à les combattre. Il y en a qu'on ne peut observer sans admiration et qui cachent sous un désordre apparent des harmonies profondes, et c'est certes une belle chose qu'une fièvre carte. Parfois, certaines affections du corps déterminent une exaltation subite des facultés de l'esprit. Tu connais, Créon, Enfant, il était bègue et stupide. Mais s'étant fendu le crâne en tombant du haut d'un escalier, il devint l'habile avocat que tu sais. Il faut que ce moine soit atteint dans quelque organe caché. D'ailleurs, son genre d'existence n'est pas aussi singulier qu'il te semble, Lucius. Rappelle-toi les gymnosophistes de l'Inde, qui peuvent garder une entière immobilité non point seulement le long d'une année, mais durant 20, 30 et 40 ans. Par Jupiter, s'écria Cotta, voilà une grande aberration. Car l'homme est né pour agir, et l'inertie est un crime impardonnable, puisqu'il est commis au préjudice de l'État. Je ne sais trop à quelle croyance rapporter une pratique si funeste. Il est vraisemblable qu'on doit la rattacher à certains cultes asiatiques. Du temps que j'étais gouverneur de Syrie, j'ai vu des phallus ériger sur les propriétés et sur les propylées de la villa d'Héra. Un homme y monte deux fois l'an et y demeure pendant 7 jours. Le peuple est persuadé que cet homme, conversant avec les dieux, obtient de leur providence la prospérité de la Syrie. Cette coutume me parut dénuée de raison. Toutefois, je ne fis rien pour la détruire, car j'estime qu'un bon administrateur doit non point abolir les usages des peuples, mais au contraire en assurer l'observation. Il n'appartient pas au gouverneur d'imposer des croyances. Son devoir est de donner satisfaction à celles qui existent et qui, bonnes ou mauvaises, ont été déterminées par le génie des temps, des lieux et des races. S'il entreprend de les combattre, il se montre révolutionnaire par l'esprit et tyrannique dans ses actes. Et il est justement détesté. D'ailleurs, comment s'élever au-dessus des superstitions du vulgaire sinon en les comprenant et en les tolérant. Aristée, je suis d'avis qu'on laisse Néphélocoxygien en paix dans les airs, exposé seulement aux offenses des oiseaux. Ce n'est pas en le violentant que je prendrai avantage sur lui, mais bien en me rendant compte de ses pensées et de ses croyances. Il souffla, toussa, posa la main sur l'épaule de son secrétaire. Enfin, note que dans certaines sectes chrétiennes, il est grandement recommandable d'enlever les courtisanes et de vivre sur des colonnes. Tu peux ajouter que ces usages supposent le culte des divinités génésiques. Mais à cet égard, nous devons l'interroger lui-même. Puis, levant la tête et portant sa main sur ses yeux pour n'être point aveuglé par le soleil, il enfla sa voix. « Hola, Paphnus! Si tu te souviens que tu fus mon hôte, réponds-moi. Que fais-tu là-haut? Pourquoi y es-tu monté et pourquoi y demeures-tu? Cette colonne a-t-elle dans ton esprit une signification phallique ?» Paphnus, considérant que Cotta était idolâtre, ne daigna pas lui faire de réponse. Mais Flavien, son disciple, s'approcha et dit « Illustrissime Seigneur, ce saint homme prend les péchés du monde et guérit les maladies. » « Par Jupiter, tu l'entends, Aristée !» s'écria Cotta. « Le néphélocoxygien exerce comme toi la médecine. Que dis-tu d'un confrère si élevé ?» Aristée secoua la tête. Non, il est possible qu'il guérisse mieux que je ne fais moi-même certaines maladies, telles par exemple que l'épilepsie, nommée vulgairement mal divin, bien que toutes les maladies soient également divines, mais elles viennent toutes des dieux. La cause de ce mal est en partie dans l'imagination. Et tu reconnaîtras, Lucius, que ce moine ainsi juché sur cette tête de déesse, frappe l'imagination des malades plus fortement que je ne saurais le faire, courbé dans mon office, sur mes mortiers, sur mes fioles. Il y a des forces, Lucius, infiniment plus puissantes que la raison et que la science. Lesquelles ? Demanda Cotta. L'ignorance et la folie, répondit Aristée. J'ai rarement vu quelque chose de plus curieux que ce que je vois dans ce moment, reprit Cotta. Je souhaite qu'un jour un écrivain habile raconte la fondation de Stylopolis. Mais les spectacles les plus rares ne doivent pas retenir plus longtemps qu'il ne convient un homme grave et laborieux. Allons inspecter les canaux. Adieu, bon Fanus, ou plutôt au revoir. Si jamais, redescendu sur la terre, tu retournes à Alexandrie, ne manque pas, je t'en prie, de venir souper chez moi. Ces paroles, entendues par les assistants, passèrent de bouche en bouche et, publiées par les fidèles, ajoutèrent une incomparable splendeur à la gloire de Paphnus. De pieuses imaginations les ornèrent et les transformèrent, et l'on contait que le saint, du haut de sa stèle, avait converti le préfet de la flotte à la foi des apôtres et des pères de Nicée. Les croyants donnaient aux dernières paroles de Lucius Aurelius Cotta un sens figuré. Dans leur bouche, le souper auquel ce personnage avait convié la secte devenait une sainte communion, des agapes spirituelles, un banquet céleste. On enrichissait le récit de cette rencontre de circonstances merveilleuses auxquelles ceux qui les imaginaient ajoutaient foi les premiers. On disait qu'au moment où Cotta, après une longue dispute, avait confessé la vérité, un ange était venu du ciel essuyer la sueur de son front. On ajoutait que le médecin et le secrétaire du préfet de la flotte l'avaient suivi dans sa conversion. Et, le miracle étant notoire, les diacres des principales églises de Libye rédigèrent les actes authentiques. On peut dire, sans exagération, que dès lors le monde entier fut saisi du désir de voir Paphnus, et qu'en Occident comme en Orient, tous les chrétiens tournaient vers lui leurs regards éblouis. Les plus illustres cités d'Italie lui envoyèrent des ambassadeurs, et le César de Rome, le divin Constant, qui soutenait l'orthodoxie chrétienne, lui écrivit une lettre que des légats lui remirent avec un grand cérémonial. Or, une nuit, tandis que la ville éclose à ses pieds dormait dans la rosée, il entendit une voix qui disait « Paphnus, tu es illustre par tes œuvres et puissant par ta parole. Dieu t'a suscité pour sa gloire. Il t'a choisi pour opérer des miracles, guérir les malades, convertir les païens, éclairer les pécheurs, confondre les Ariens et rétablir la paix de l'Église. » Paphnus répondit « Que la volonté de Dieu soit faite. » La voix reprit « Lève-toi, Paphnus, et va trouver dans son palais l'impie Constance, qui, loin d'imiter la sagesse de son frère Constant, favorise l'erreur d'Arius et de Marcus Varre. Les portes des reins s'ouvriront devant toi, et tes scandales résonneront sur le pavé d'or des basiliques, devant le trône des Césars, et ta voix redoutable changera le cœur du fils de Constantin. Tu régneras sur l'Église pacifiée et puissante, et de même que l'âme conduit le corps, l'Église gouvernera l'Empire. Tu seras placé au-dessus des sénateurs, des comtes et des patrices. Tu feras faire taire la faim du peuple et l'audace des barbares. Le vieux Cotta, sachant que tu es le premier dans le gouvernement, recherchera l'honneur de te laver les pieds. À ta mort, on portera ton cilice au patriarche d'Alexandrie, et le grand Athanase, blanchi dans la gloire, le baisera comme la relique d'un saint. Allez, va ! Paphnus répondit « Que la volonté de Dieu soit accomplie. » Et, faisant effort pour se mettre debout, il se préparait à descendre. Mais la voix, devinant sa pensée, lui dit « Surtout ne descends point par cette échelle. Ce serait agir comme un homme ordinaire et méconnaître les dons qui sont en toi. » Mesure mieux ta puissance, angélique Paphnus. Un aussi grand saint que tu es doit voler dans les airs. Saute, les archanges sont là pour te soutenir, saute donc. Paphnus répondit, « Que la volonté de Dieu règne sur la terre et dans les cieux. » Balançant ses longs bras étendus comme les ailes dépenaillées d'un grand oiseau malade, il allait s'élancer quand, tout à coup, un ricanement hideux résonna à son oreille. Épouvanté, il demanda, « Qui donc rit ainsi ?»« Ha ha !» glapit la voix. « Nous ne sommes encore qu'au début de notre amitié. Tu feras un jour plus intime connaissance avec moi. Très cher, c'est moi qui t'ai fait monter ici, et je dois te témoigner toute ma satisfaction de la docilité avec laquelle tu accomplis mes désirs. Paphnus, je suis content de toi. » Paphnus murmura d'une voix étranglée par la peur, « Arrière, arrière !» « Je te reconnais. Tu es celui qui porta Jésus sur le pinacle du temple et lui montra tous les royaumes de ce monde. » Il retomba, consterné, sur la pierre. « Comment ne l'ai-je pas reconnu plus tôt ? » songeait-il. « Plus misérable que ces aveugles, ces sourds, ces paralytiques qui espèrent en moi. » Mais j'ai perdu le sens des choses surnaturelles, et plus dépravé que les maniaques qui mangent de la terre et s'approchent des cadavres, je ne distingue plus les clameurs de l'enfer des voix du ciel. J'ai perdu jusqu'au discernement du nouveau-né, qui pleure quand on le tire du sein de sa nourrice, du chien qui flaire la trace de son maître, de la plante qui se tourne vers le soleil. Je suis le jouet des diables. Ainsi c'est Satan qui m'a conduit ici. Quand il me haïssait et qu'il me menait sur ce fait, la luxure et l'orgueil y montaient à mon côté. Ce n'est pas la grandeur de mes tentations qui me consterne. Antoine, sur sa montagne, en subit de pareil, et je veux bien que leurs épées transpercent ma chair sous le regard des anges. J'en suis arrivé même à chérir mes tortures, mais Dieu se tait, et son silence m'étonne. Il me quitte, moi qui n'avais que lui. Il me laisse seul dans l'horreur de son absence. Il me fuit. Je veux courir après lui. Cette pierre me brûle les pieds. Vite, partons, rattrapons Dieu. Aussitôt, il saisit l'échelle qui demeurait appuyée à la colonne, y posa les pieds, et ayant franchi un échelon, il se trouva face à face avec la tête de la bête. Elle souriait étrangement. Il lui fut alors certain que ce qu'il avait pris pour le siège de son repos et de sa gloire n'était que l'instrument diabolique de son trouble et de sa damnation. Il descendit à la hâte tous les degrés et toucha le sol. Ses pieds avaient oublié la terre, il chancelait. Mais, sentant sur lui l'ombre de la colonne maudite, il les forçait à courir. Tout dormait. Il traversa, sans être vu, la grande place entourée de cabarets, d'hôtelleries et de caravansérails, et se jeta dans une ruelle qui montait vers les collines libyques. Un chien qui le poursuivait en aboyant ne s'arrêta qu'au premier sable du désert. Et Paphnus en alla par la contrée où il n'y a de route que la piste des bêtes sauvages, laissant derrière lui les cabanes abandonnées par les faux monnayeurs. Il poursuivit toute la nuit et tout le jour sa fuite désolée. Enfin, près d'expirer de faim, de soif et de fatigue, et ne sachant pas encore si Dieu était loin, il découvrit une ville muette qui s'étendait à droite et à gauche et s'allait perdre dans le pourpre de l'horizon. Les demeures, largement isolées et pareilles les unes aux autres, ressemblaient à des pyramides coupées à la moitié de leur hauteur. C'étaient des tombeaux. Les portes en étaient brisées, et l'on voyait dans l'ombre des salles luire les yeux des hyènes et des loups qui nourrissaient leurs petits, tandis que les morts gisaient sur le seuil, dépouillés par les brigands et rongés par les bêtes. Ayant traversé cette ville funèbre, Paphnus tomba exténué devant un tombeau qui s'élevait à l'écart près d'une source couronnée de palmiers. Ce tombeau était très orné et, comme il n'avait plus de porte, on apercevait du dehors une chambre peinte dans laquelle nichaient les serpents. « Voilà, soupira-t-il, ma demeure d'élection, le tabernacle de mon repentir et de ma pénitence. » Il s'y traîna, chassa du pied les reptiles et demeura prosterné sur la dalle pendant 18 heures, au bout desquelles il alla à la fontaine boire dans le creux de sa main. Puis il cueillit des dattes et quelques tiges de lotus dont il mangea les graines. Pensant que ce genre de vie était bon, il en fit la règle de son existence. Depuis le matin jusqu'au soir, il ne levait pas son front de dessus la pierre. Or, un jour qu'il était ainsi prosterné, il entendit une voix qui lui disait « Regarde ces images afin de t'instruire. » Alors, levant la tête, il vit sur les parois de la chambre des peintures qui représentaient des scènes riantes et familières. C'était un ouvrage très ancien et d'une merveilleuse exactitude. On y remarquait des cuisiniers qui soufflaient le feu en sorte que leurs joues étaient toutes gonflées. D'autres plumaient des oies ou faisaient cuire des quartiers de moutons dans des marmites. Plus loin, un chasseur rapportait sur ses épaules une gazelle percée de flèches. Là, les paysans s'occupaient aux semailles, à la moisson, à la récolte. Ailleurs, des femmes dansaient au son des violes, des flûtes et de la harpe. Une jeune fille jouait du cinore. La fleur du lotus brillait dans ses cheveux noirs, finement nattés. Sa robe transparente laissait voir les formes pures de son corps. Son sein, sa bouche étaient en fleurs. Son bel œil regardait de face sur un visage tourné de profil. Et cette figure était exquise. Paphnus, l'ayant considérée, baissa les yeux et répondit à la voix « Mais pourquoi m'ordonnes-tu de regarder ces images? Sans doute elles représentent les journées terrestres de l'idolâtre dont le corps repose ici sous mes pieds, au fond d'un puits, dans un cercueil de basalte noir. Elles rappellent la vie d'un mort et sont, malgré le vif couleur, les ombres du nombre. La vie d'un mort, ô vanité !» « Il est mort, mais il a vécu, » reprit la voix. « Et toi, tu mourras et tu n'auras pas vécu. » À compter de ce jour, Paphnus n'eut plus un moment de repos. La voix lui parlait sans cesse. La joueuse de cinore, de son œil aux longues paupières, le regardait fixement. À son tour, elle parla. « Vois, je suis mystérieuse et belle, aime-moi, épuise dans mes bras l'amour qui te tourmente, que te sert de me craindre. Tu ne peux m'échapper, je suis la beauté de la femme. Et où penses-tu me fuir, insensée? Mais tu retrouveras mon image dans l'éclat des fleurs et dans la grâce des palmiers, dans le vol des colombes, dans les bonds des gazelles, dans la fuite onduleuse des ruisseaux, dans les molles clartés de la lune, et si tu fermes les yeux, tu la trouveras en toi-même. Il y a 1000 ans que l'homme qui dort ici entouré de bandelettes dans un lit de pierre noire, m'a pressé sur son cœur. Il y a 1000 ans qu'il a reçu le dernier baiser de ma bouche, et son sommeil en est encore parfumé. Tu me connais bien, Paphnus, mais comment ne m'as-tu pas reconnu? Je suis une des innombrables incarnations de Thaïs. Tu es un moine instruit et très avancé dans la connaissance des choses. Tu as voyagé. C'est en voyage qu'on apprend le plus. Souvent, une journée qu'on passe dehors apporte plus de nouveautés que 10 années pendant lesquelles on reste chez soi. Or, tu n'es pas sans avoir entendu dire que Thaïs a vécu jadis dans Sparte sous le nom d'Hélène. Elle eut dans Thèbes et Catompile une autre existence. Et Thaïs de Thèbes, c'était moi. Comment ne l'as-tu pas deviné? J'ai pris vivante ma large part des péchés du monde, et maintenant réduite ici à l'état d'ombre, je suis encore très capable de prendre tes péchés, moi le bien-aimé. D'où vient ta surprise? Il était pourtant certain que partout où tu irais, tu retrouverais Thaïs. Il se frappait le front contre la dalle et criait d'épouvante. Et chaque nuit, la joueuse de Sinor quittait la muraille, s'approchait et parlait d'une voix claire mêlée de souffle frais. Et comme le saint homme résistait aux tentations qu'elle lui donnait, elle lui dit ceci. « Aime-moi, cède, ami. Tant que tu me résisteras, je te tourmenterai. Tu ne sais pas ce que c'est que la patience d'une morte. J'attendrai, s'il le faut, que tu sois mort. Étant magicienne, je saurai faire entrer dans ton corps sans vie un esprit qui l'animera de nouveau et qui ne me refusera pas ce que je t'aurais demandé en vain. Et songe, Paphnus, à l'étrangeté de ta situation, quand ton âme bienheureuse verra du haut du ciel son propre corps se livrer au péché. Dieu, qui a promis de te rendre ce corps après le jugement dernier et la consommation des siècles, sera lui-même fort embarrassé. Comment pourra-t-il installer dans la gloire céleste forme humaine habitée par un diable et gardée par une sorcière? Tu n'as pas songé à cette difficulté. Dieu non plus, peut-être. Entre nous, il n'est pas bien subtil. La plus simple magicienne le trompe aisément, et s'il n'avait ni son tonnerre, ni les cataractes du ciel, les marmots du village lui tireraient la barbe. Certes, il n'a pas autant d'esprit que le vieux serpent, son adversaire. Celui-là est un merveilleux artiste. Je le suis si belle que parce qu'il a travaillé à ma parure. C'est lui qui m'a enseigné à natter mes cheveux et à me faire des doigts de rose et des ongles d'agate. Tu l'as trop méconnu. Quand tu es venu te loger dans ce tombeau, tu as chassé du pied les serpents qui y habitaient, sans t'inquiéter de savoir s'ils étaient de sa famille, et tu as écrasé leurs œufs. Oh, je crains, mon pauvre ami, que tu ne sois mis une méchante affaire sur les bras. On t'avait pourtant averti qu'il était musicien et amoureux. Qu'as-tu fait? Te voilà brouillé avec la science et la beauté. Tu es tout à fait misérable, et Yahvé ne vient point ton secours. Il n'est pas probable qu'il vienne. Étant aussi grand que tout, il ne peut pas bouger, faute d'espace. Et si, par impossible, il faisait le moindre mouvement, toute la création serait bousculée. Mais le bon bel ermite, donne-moi un baiser. Paphnus n'ignorait pas les prodiges opérés par les arts magiques. Il songeait, dans sa grande inquiétude, peut-être le mort enseveli à mes pieds, sait-il les paroles écrites dans ce livre mystérieux, qui demeure caché non loin d'ici, au fond d'une tombe royale. Par la vertu de ces paroles, les morts, reprenant la forme qu'ils avaient sur la terre, voient la lumière du soleil et le sourire des femmes. Sa peur était que la jalouse de Sinor et la mort puissent se coindre comme de leurs vivants et qu'il les vit s'unir. Et parfois, il croyait entendre le souffle léger des baisers. Tout lui était trouble, et maintenant, en l'absence de Dieu, il craignait de penser autant que de sentir. Certains soirs, comme il se tenait prosterné selon sa coutume, une voix inconnue lui dit « Paphnus, il y a sur la terre plus de peuples que tu ne crois, et si je te montrais ce que j'ai vu, tu mourrais d'épouvante. » Il y a des hommes qui portent au milieu du front un œil unique. Il y a des hommes qui n'ont qu'une jambe et marchent en sautant. Il y a des hommes qui changent de sexe et de femelles deviennent mâles. Il y a des hommes, arbres, qui poussent des racines en terre. Et il y a des hommes sans tête, avec deux yeux, un nez, une bouche sur la poitrine. De bonne foi, crois-tu que Jésus-Christ soit mort pour le salut de ces hommes-là? Une autre fois, il eut une vision. Il vit, dans une grande lumière, une large chaussée des ruisseaux et des jardins. Sur la chaussée, Aristobule et Chéréas passaient au galop de leurs chevaux syriens, et l'ardeur joyeuse de la course empourprait la joue des deux jeunes hommes. Sous un portique, Callicrate déclamait des vers. L'orgueil satisfait tremblait dans sa voix et brillait dans ses yeux. Dans le jardin, Zélotémis cueillait des pommes d'or et caressait un serpent aux ailes d'azur. Vêtu de blanc et coiffé d'une mitre étincelante, Hermodor méditait sous un perséa sacré qui portait en guise de fleurs de petites têtes au pur profil, coiffées, comme les déesses des Égyptiens, de vautours, d'épervier ou du disque brillant de la lune. Tandis qu'à l'écart, au bord d'une fontaine, Nicia s'étudiait sur une sphère armillaire le mouvement harmonieux des astres. Puis une femme voilée s'approcha, tenant à la main un rameau de myrte, et elle dit au moine, « Regarde, les uns cherchent la beauté éternelle, et ils mettent l'infini dans leur vie éphémère. Les autres vivent sans grande pensée, mais par cela seul qu'ils cèdent à la belle nature. Ils sont heureux et beaux, et seulement en se laissant vivre. Ils rendent gloire à l'artiste souverain des choses, car l'homme est un bel hymne de Dieu. Ils pensent tous que le bonheur est innocent et que la joie est permise. Paphnus, si pourtant ils avaient raison, quelle dupe tu serais !» Et la vision s'évanouit. C'est ainsi que Paphnus était tenté sans trêve dans son corps et dans son esprit. Satan ne lui laissait pas un moment de repos. La solitude de ce tombeau était plus peuplée qu'un carrefour de grandes villes. Les démons y poussaient de grands éclats de rire, et des millions de larves, d'empuses, de lémures y accomplissaient le simulacre de tous les travaux de la vie. Le soir, quand il allait à la fontaine, des satyres mêlés à des faunesses dansaient autour de lui et l'entraînaient dans leur ronde lascive. Les démons ne le craignaient plus. Ils l'accablaient de railleries, d'injures obscènes et de coups. Un jour, un diable, qui n'était pas plus haut que le bras, lui vola la corde dont il se saignait les reins. Il songeait, « Pensez, où m'as-tu conduit ?» Et il résolut de travailler de ses mains afin de procurer à son esprit le repos dont il avait besoin. Près de la fontaine, des bananiers aux larges feuilles croissaient dans l'ombre des palmes. Il en coupa des tiges qu'il porta dans le tombeau. Là, il les broya sous une pierre et les réduisit en minces filaments comme il y avait vu faire au cordier. Car il se proposait de fabriquer une corde en place de celle qu'un diable lui avait volée. Les démons en éprouvèrent quelques contrariétés. Ils cessèrent leur vacarme, et la joueuse de Cynor elle-même, renonçant à la magie, resta tranquille sur la paroi peinte. Paphnus, tout en écrasant les tiges des bananiers, rassurait son courage et sa foi. « Avec le secours du ciel, se disait-il, je dompterai la chair. Quant à l'âme, elle a gardé l'espérance. En vain, les diables, en vain, cette âme damnée voudrait m'inspirer des doutes sur la nature de Dieu. Je leur répondrai par la bouche de l'apôtre Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. C'est ce que je crois fermement. Et si ce que je crois est absurde, je le crois plus fermement encore. Et, pour mieux dire, il faut que ce soit absurde. Sans cela, je ne le croirais pas, je le saurais. Or, ce que l'on sait ne donne point la vie, et c'est la foi seule qui sauve. » Il exposait au soleil et à la rosée les fibres détachées, et chaque matin, il prenait soin de les retourner pour les empêcher de pourrir, et il se réjouissait de sentir renaître en lui la simplicité de l'enfance. Quand il eut tissé sa corde, il coupa des roseaux pour en faire des nattes et des corbeilles. La chambre sépulcrale ressemblait à l'atelier d'un vanier, et Paphnus y passait aisément du travail à la prière. Pourtant, Dieu ne lui était pas favorable, car une nuit, il fut réveillé par une voix qui le glaça d'horreur. Il avait deviné que c'était celle du mort. La voix faisait entendre un appel rapide, un chuchotement léger. « Hélène, Hélène, viens te baigner avec moi, viens vite !» Une femme dont la bouche effleurait l'oreille du moine répondit « Ami, je ne puis me lever, un homme est couché sur moi. » Tout à coup, Paphnus s'aperçut que sa joue reposait sur le sein d'une femme. Il reconnut la joueuse de Cynor qui, dégagée à demi, soulevait sa poitrine. Alors il l'étreignit désespérément cette fleur de chair tiède et parfumée, et consumé du désir de la damnation, il cria « Reste, reste, mon ciel !» Mais elle était déjà debout, sur le seuil. Elle riait, et les rayons de la lune argentaient son sourire. « À quoi bon rester ?» disait-elle. « L'ombre d'une ombre suffit à un amoureux doué d'une si vive imagination. D'ailleurs, tu as péché. » « Que te faut-il de plus ? Allez, adieu, mon amant m'appelle !» Paphnus pleura dans la nuit, et quand vint l'aube, il exhala une prière plus douce qu'une plainte. « Jésus, mon Jésus, pourquoi m'abandonnes-tu ? Tu vois le danger où je suis ? Viens me secourir, doux sauveur. Puisque ton père ne m'aime plus, puisqu'il ne m'écoute pas, songe que je n'ai que toi. De lui à moi, rien n'est possible, je ne puis le comprendre, il ne peut me plaindre. Mais toi, tu es né d'une femme, et c'est pourquoi j'espère en toi. Souviens-toi que tu as été homme. Je t'implore, non parce que tu es Dieu de Dieu, lumière de lumière, Dieu vrai, mais parce que tu es vécu pauvre et faible, sur cette terre où je souffre, parce que Satan voulut tenter ta chair, parce que la sueur de l'agonie glaça ton front. C'est ton humanité que je prie, mon Jésus, mon frère Jésus. » Après qu'il eut prié ainsi, en se tordant les mains, un formidable éclat de rire ébranla les murs du tombeau, et la voix qui avait résonné sur le faîte de la colonne dit en ricanant: « Voilà une raison digne du bréviaire de Marcus l'hérétique. Paphnu, c'est à rien, paphnu, c'est à rien !» Comme frappé de la foudre, le moine tomba inanimé.